l'invité du service radio de la Fédération protestante de France.
Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous accueillir, Jean-Paul Barcon. Alors, l'Association internationale pour la défense de la liberté religieuse est dotée du statut consultatif auprès des Nations Unies et du Conseil de l'Europe. Et chaque année, cette association publie une revue qui s'appelle « Conscience et liberté ». Et vous-même, Jean-Paul Barcon, vous êtes secrétaire général de la section française de cette association et vous publiez deux fois par an un bulletin d'information qui s'intitule « Liberté au singulier », parce que la liberté n'est pas sécable, comme chacun le sait. C'est l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, Jean-Paul Barcon, qui déclare comme bien commun la liberté de penser, de conscience et de religion. Il y a bien sûr d'autres textes, plus anciens ou plus récents, qui confirment ce droit humain, Jean-Paul Barcon.
Oui, au niveau européen, nous avons la Convention européenne de la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment l'article 9, qui dit la même chose que l'article 18 de la Déclaration internationale.
C'est-à-dire ?
Toute personne, dit le texte, a droit à la liberté de penser, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, tant en public qu'en privé, par l'enseignement et les pratiques et l'accomplissement des rites. C'est un texte qui est fondamental, qui est important, qui s'adresse à l'homme, à l'être humain, au-delà d'ailleurs de toutes les écoles de pensée, des idéologies, etc.
Et quelle que soit sa culture.
Bien sûr. Mm-hmm. Alors, c'est un texte qui pose un certain nombre de problèmes à certains États, et notamment aux pays du Maghreb, puisque dans la pensée de l'islam, un musulman ne peut pas changer de religion.
Alors, cette disposition, bien entendu, vient quand même chez nous se heurter, on va dire, à la laïcité. Ou bien on pourrait dire que cet article que vous venez de rappeler de la Convention européenne pourrait être une définition même de la laïcité, ou marquer ses limites.
Je ne pense pas que ce texte heurte la laïcité. Nous avons dans le système français, dans la Constitution, la notion de séparation de l'Église et de l'État qui est manifeste. En France, vous avez donc la loi de séparation de 1905, qui n'est pas en contradiction avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, par exemple, puisque les deux piliers de la loi de 1905, c'est l'article 1er et l'article 2. L'article 1er, la République assure la liberté de conscience. Alors ce texte-là ne s'oppose pas à l'article 18 ou l'article 9 de la Convention européenne. Donc la République garantit, dit le texte, le libre exercice des cultes, sous les seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public. Et vous avez l'article 2 qui affirme que la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte.
Ça, c'est la règle définie. Néanmoins, la vie dans notre pays montre bien que c'est parfois difficile. Il y a quand même des courants qui se contredisent par rapport à cette notion de liberté de conscience et d'exercice de la religion.
Oui, parce que la liberté religieuse est une liberté qui s'ajuste avec d'autres libertés.
Mais comme toute liberté.
Donc c'est à la fois la liberté de croire en l'existence d'une transcendance, mais aussi de ne pas croire en l'existence de cette transcendance, mais aussi la liberté de pouvoir manifester cette croyance. Parce que la croyance, ça ne se situe pas uniquement au niveau cérébral ou au niveau du cœur, au niveau de l'émotion, mais elle se traduit par une pratique, par des actes. Alors, c'est le droit, la liberté religieuse, là on a lu le texte de l'article 18, mais c'est beaucoup plus vaste que ça parce qu'il y a des implications. Des implications qu'il faut comprendre. Parce que la liberté religieuse, de respecter les autres libertés. Mais la liberté religieuse, comme je vous l'ai dit, peut s'ajuster à d'autres libertés. La liberté de choisir sa religion, bon, c'est aussi la liberté de se rassembler et de pratiquer sa religion seule ou en communauté, mais c'est encore la liberté d'enseigner sa religion et de témoigner librement et respectueusement auprès des autres. La liberté religieuse, c'est encore de respecter les autres points de vue et de se réserver le droit de ne pas être d'accord avec eux, le cas échéant. La liberté religieuse, c'est aussi le droit d'être propriétaire de ces lieux de culte. C'est aussi la liberté de confectionner, d'acquérir et d'utiliser en quantité adéquate les objets et le matériel requis pour le rite et les usages d'une religion ou d'une conviction. La liberté religieuse, c'est encore la liberté de solliciter et de recevoir des contributions volontaires, financières. Et c'est aussi la liberté de nommer, d'élire des responsables au sein du groupe, que ce soit au sein de la mosquée, de l'église, de la synagogue, au sein du lieu de culte ou du lieu de prière. C'est aussi la liberté d'observer les jours de repos et de célébrer les fêtes et cérémonies conformément aux préceptes de sa religion.
Donc ça vient rencontrer le droit du travail ?
Bien sûr, oui. C'est encore la liberté d'entretenir des institutions charitables ou humanitaires, la liberté d'écrire, d'imprimer, de diffuser des publications, la liberté d'établir et de maintenir des communications avec des individus ou des communautés en matière de religion, aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Tout ça, ça fait partie de ce que je me permets d'appeler les différentes facettes de la liberté religieuse. En France, nous avons le privilège de bénéficier de l'ensemble de ces facettes. Simplement, il est important que, tant du côté politique que du côté religieux, les uns et les autres puissent comprendre qu'ils doivent s'ajuster, qu'ils doivent se respecter, et il n'est pas question que l'un interfère chez l'autre. Mais le problème aussi, c'est qu'il y a en France des règles. Depuis la séparation de l'Église et de l'État, il y a donc des associations cultuelles qui doivent comprendre qu'elles n'ont pas, sur le plan du droit, à tout mélanger. Une Église n'est pas habilitée à faire des produits, c'est sans but lucratif. Si elle veut vendre ses productions, eh bien à ce moment-là, il faut qu'elle utilise ce qu'on appelle la loi de 1901. Il faut qu'elle ait une deuxième association, qui est donc une association culturelle et non plus cultuelle. Autre aspect de difficulté, c'est que en France, c'est vrai que la France est une terre d'asile, on accueille des personnes issues de l'immigration.
Et de moins en moins quand même.
Oui.
C'est un autre débat.
Oui, mais sur le plan culturel, vous avez donc tout un brassage et vous avez malheureusement des gens qui viennent ici, qui ont du mal à comprendre qu'ils ne peuvent pas toujours reproduire ce qu'ils vivent dans leur pays et qui doivent par conséquent être en règle avec le bâtiment ou le lieu de culte. Vous avez donc des chrétiens qui utilisent un garage pour faire une célébration, mais il est important que ce lieu soit en harmonie avec la sécurité.
Se mettre dans un garage, c'est parfois parce qu'on n'a pas d'autres endroits, et si on n'a pas d'autres endroits, parfois c'est parce que voilà, il y a une sorte d'interdit ou d'entrave qui sont mises pour empêcher que des gens accèdent à un lieu de culte décent.
Bien sûr.
Dans les règles de la sécurité. Jean-Paul Barconte, si l'association s'appelle Défense de la liberté religieuse, c'est qu'il y a des menaces, peut-être.
Bon, en France, il y a ce fameux régime qui est très important pour la liberté de conscience, donc la séparation de l'Église et de l'État. Les pouvoirs publics sont neutres, sont laïque. La laïcité, ce n'est pas l'hostilité à l'égard des religions, ce n'est pas un combat à mener contre la religion. La religion, ce n'est pas l'obscurantisme, mais la laïcité, en fait, c'est un respect de la liberté religieuse. Et certaines personnes ont parfois du mal à comprendre, tant du côté des croyants, que certains croyants pensent que la laïcité est une entrave à leur liberté, alors que les politiques peuvent penser, certains en tout cas, peuvent avoir une mauvaise compréhension de la laïcité.
Dans l'école, il y aurait toutefois quelque chose d'important à manifester, qui est le respect de toutes ces religions. Et on peut évidemment parler de religion à l'école, le problème n'est pas là, je pense que vous ne me contrediriez pas, car la montée toujours récurrente de l'antisémitisme, ou aujourd'hui les tendances contre l'islam, voire contre le christianisme, sont manifestes, du moins les médias relaient ces événements.
Oui, alors là aussi il y a toute une œuvre d'éducation à faire, il faut que les élèves comprennent qu'ils ont à respecter une pratique, un comportement qu'il ne leur est pas propre. Il faut que les religions se respectent, plutôt que de chercher à se combattre ou à vouloir à tout prix influencer l'autre pour que l'autre retrouve ses racines culturelles, cultuelles, à travers un vêtement, une nourriture, etc. Aujourd'hui, c'est la grande richesse, en tout cas, de la France et de la République, c'est que tout le monde se côtoie, mais tout le monde doit se respecter pour un meilleur vivre ensemble. On n'a pas le droit d'avoir une religion qui va imposer à d'autres des comportements ou des attitudes. Je pense que la France a connu tous les cas de figure et il est important que le corps enseignant enseigne le respect aux élèves. On doit se respecter les uns par rapport aux autres.
J'avais été intéressée en préparant cette émission de constater que la loi Jules Ferry avait prévu un second jour de repos en dehors du dimanche pour que les parents, s'ils le souhaitent, puissent donner une instruction ou faire donner une instruction religieuse à leurs enfants. Donc le jeudi autrefois, le mercredi aujourd'hui. Et cela, il y a quelque chose de contesté aujourd'hui.
Alors ça, c'est une chose importante. Vous faites allusion donc au catéchisme, etc.
Oui, c'est ça. Oui.
Donc c'est une chose qui peut se faire en dehors de l'établissement public, parce que l'établissement public est laïque, c'est-à-dire neutre, ne doit pas favoriser une religion ou une autre. Alors il y a certaines écoles qui ont introduit ce qu'on appelle un cours de religion, mais le problème est de savoir par qui est-ce qu'il est donné.
Jean-Paul Barcon, quels sont les défis aujourd'hui pour votre association ? Dans notre pays, je parle.
Oui, alors en France, il peut y avoir des atteintes à la liberté religieuse qu'il faut régler. Ça peut être par rapport à la législation sur le problème de la sécurité des bâtiments. Cela peut être aussi les minorités religieuses. Les minorités religieuses ne sont pas forcément comprises par l'ensemble traditionnel. Vous avez donc des gens qui sont d'obédience juive ou des minorités chrétiennes de type adventiste. Pour ces personnes-là, le samedi, le jour du culte, est important. Or, vous avez la règle établie en 1905 où il parlait de la garantie dans l'article 1er, la République qui garantit le libre exercice des cultes. Ben, il faut savoir qu'il y a des gens qui ont de la difficulté à vivre cette liberté de culte, notamment des élèves qui sont scolarisés, parce que ce jour-là, ils peuvent avoir des cours. Or, ces élèves peuvent être d'obédience juive ou d'obédience adventiste, parce que bon, la particularité des adventistes, c'est bien sûr d'avoir un jour de culte différent de l'ensemble du christianisme, puisque c'est le samedi, ce qu'ils appellent le sabbat. Et ce jour-là, il y a des élèves qui sont dans l'obligation de venir en cours. Et là, il y a un problème de conscience qui peut se jouer. Là, c'est aussi un défi. Autre défi en France, c'est le phénomène sectaire. Alors, dans les années 70-80, on en parlait beaucoup. Maintenant, il me semble que ça s'est un petit peu tassé. Mais il y a donc des gens qui ont une croyance, je dirais, particulière et qui ont été listés par des commissions parlementaires comme faisant partie de sectes. Et c'est vrai que ces personnes ont tout intérêt à être en harmonie avec la législation, ce que leurs leaders n'ont pas toujours fait. Et il y a un certain nombre de critères qui ont été établis, même des critères de dangerosité. Je pense que la liberté religieuse doit veiller à ce que la religion ne peut pas être un lieu d'aliénation. Le rôle de la religion, même en latin, religare, c'est tout ce qui nous réunit à Dieu, à une transcendance. Mais la religion, c'est d'épanouir l'homme. Et vous avez malheureusement des gens qui ne sont pas épanouis dans la religion, qui sont enfermés.
Enroulés.
Oui.
Fanatisés.
Oui. Alors, justement, là, il y a un problème. Puisque si la religion épanouit l'homme, on n'est pas du tout dans le créneau d'une religion qui asservit l'homme. La religion, ce n'est pas de l'obscurantisme. Donc, ce sont les gens qui sont éclairés sur ce sujet-là qui doivent aider les autres à s'épanouir. Si la religion me rend critique à l'égard des autres, me rend étroit d'esprit, si la religion me fait rompre mes liens avec la famille, si la religion me pompe mes revenus, etc., c'est qu'il y a un problème et que je suis dans un phénomène sectaire. Et je pense qu'il faut sortir de toutes les tendances sectaires. Ce n'est pas du tout des tendances épanouissantes. Et en tout cas, le rôle de l'association, c'est aussi d'éclairer les personnes qui sont en prise et qui parlent d'atteinte à la liberté religieuse, alors que ce n'est pas du tout ça. Il y a d'autres aspects qu'ils n'ont pas forcément découverts dans ce domaine-là.
Merci Jean-Paul Barcon.
C'est moi qui vous remercie.
C'était l'invité du service radio de la Fédération protestante de France, au micro de Chantal Crétaz. Réalisation, Michel Schaeffer.